This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Yann Renoir, qui est le directeur général de Montreux Comédie. Bonjour Yann.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Donc, merci. On va parler d'humour, évidemment, de passion, de festival. Comment tu en es arrivé à t'occuper du Montreux Comédie Festival, et en quelques mots, évidemment, et puis après, on va aller sur l'humour, bien sûr.
Alors, c'est comme souvent une histoire de rencontre. Je travaillais pour France Télévisions à la direction des programmes et des productions de France 4 à l'époque. Et on avait sur cette chaîne une case spectacle et une case en plus direct. Donc moi, j'étais en charge de toutes les prods et je sourçais régulièrement les spectacles. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un gars génial qui est Grégoire Furrer, qui était le président et fondateur du Montreux Comédie. On s'est rencontrés, on a discuté, c'était au milieu des années 2000. Et on a décidé de se lancer ensemble. Et j'ai pris les droits pour 3 ans du Montreux Comédie. D'accord. Et donc, j'ai accompagné Montreux du côté diffuseur pendant 9 éditions.
Là, on est quoi ? On est début 2010
On est au milieu des années 2000.
Milieu des années 2000.
J'ai plus l'année, okay. L'année exacte.
Au moment du Loft, de Love Story.
Pas loin. C'est ça, sans doute. Alors, c'est pas la meilleure référence que je garde en tête.
C'est pas la meilleure référence.
Non, c'était pas mon genre de beauté. Mais du coup, on va travailler ensemble pendant des années. Et puis, quand moi je décide de quitter France Télévisions pour créer ma société de production, là on est en 2013. Greg m'appelle et me dit texto. On peut être un peu cru hein, sur un podcast.
Oui, tu peux te lâcher. Ah bah oui, heureusement.
Non, mais je me souviens de ce coup de fil. J'étais rue du Commerce dans le 15e. Il m'appelle et il me dit texto. Il me dit mon directeur artistique m'a annoncé son départ.
Oui.
Ça fait des années que tu nous casses les couilles à nous demander des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Est-ce que ça te dirait de venir les faire à mes côtés?
Pas mal. Et ben moi, c'est la phrase cash qui a tout démarré.
C'était exactement ça.
Qu'est-ce que tu fous, Yann? Mais dépêche-toi dans la rue du commerce.
C'était exactement ça. Et je lui ai dit, allez banco. À l'époque, vraiment, je crée ma structure. J'avais pris comme client les Chevaliers du Fiel. Je gérais pour eux leurs négociations vidéo. Je faisais de l'administration de production. Et du coup, Montreux était mon deuxième client. Et puis, j'ai basculé cette année-là. J'ai fait Montreux dans l'équipe Montreux. Et du coup, là, on sera au mois de novembre 2023. Ça sera ma dixième édition du Festival
c'est
de Montreux
aux côtés
de Grégoire en tant que producteur artistique.
Donc, tout a commencé par « mais bouge-toi, Yann mais... !»
Est-ce que tu veux venir faire ce que tu nous demandes depuis des années qu'on n'arrive pas à faire? Ouais, c'était vraiment ça. J'avais une idée. On avait développé ça avec Greg. On avait imaginé que le festival... Montreux, ce sont des spectacles multi-artistes. On ne fait pas de spectacle intégral. C'est pas notre métier, c'est pas notre cas. Et on voulait essayer d'apporter quelque chose. Je pense pas qu'on puisse révolutionner le genre, mais l'idée elle était de se dire on peut faire un peu plus que simplement un plateau où les artistes se succèdent. Donc on avait imaginé confier un spectacle à un artiste, programmer autour de lui et travailler pendant quasiment un an sur l'écriture du spectacle. Avec trouver un thème, trouver une petite histoire, un fil rouge à dérouler, etc. etc.
Donc c'était vraiment in-house, il y avait vraiment une prod autonome.
Bien sûr.
Distingue de pas mal de festivals les gens arrivent et font entre guillemets leur numéro.
Non, c'est ça. Ouais, alors l'idée après, les artistes qui sont programmés viennent faire forcément leur gold. Tu débarques pas à Montreux avec un truc que t'as jamais fait. Montreux, c'est une scène qui est complexe, il y a une grosse visibilité, c'est un enjeu pour les artistes.
Combien de personnes d'ailleurs qui assistent en général au spectacle?
C'est 1650 personnes à pleine capacité. Et du coup, cette idée vraiment d'avoir, de confier par exemple à Artus en disant, tiens, qu'est-ce que tu aimerais raconter ? Ah bah moi, j'aimerais imaginer une fête. Je me souviens du gala de 2019 là, pour l'anniversaire de Montreux. C'était pour les 30 ans. C'était Artus disait, on imaginerait que Grégoire, on l'a perdu suite à une soirée. On ne sait pas où il est. Tout le monde demande où est Grégoire. Tout le monde veut être payé. On cherche Grégoire. Et du coup, on déroule ce fil rouge-là. Et puis les artistes viennent faire leur sketch au milieu. Et puis Artus étant Artus, un énorme entertainer, on a commencé par une ouverture avec 25 danseurs. On était vraiment dans une ouverture de comédie musicale ou de cérémonie des Oscars. Et donc c'est ça qu'on a mis en place.
Il y a un côté happening et un côté carte blanche.
Complètement. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en place avec Greg, c'était faire plus que simplement un plateau. Donc aujourd'hui, on écrit, on déroule une histoire, on accompagne les artistes dans l'écriture et la mise en scène. On intègre des artistes qui n'ont pas forcément de sketch, qui sont en lien avec l'histoire, mais on leur trouve une place. Et puis on y a amené cette dimension grand show, souvent des ouvertures dansées, également des ouvertures musicales. On tente des choses. L'année dernière, avec Old Olaf, on a créé une comédie musicale, Comedian Rhapsody, où raconter l'histoire de cet artiste qui trouvait que la scène de Montreux, qui est aussi célèbre pour le jazz, qui est même d'abord célèbre pour le jazz, était souillée par les humoristes. Et donc, lui venait monter une comédie musicale en hommage à Freddie Mercury, dont on fêtait la mort. Donc, on teste des choses. Et c'est ça.
C'est un laboratoire, hein, en t'écoutant. Ouais. On teste des trucs. Quoi.
On essaye de pousser les curseurs sur l'humour, et des fois, trop loin, je dirais, parce que monter un festival et monter des spectacles, tu travailles un an pour un gala qui va réunir une douzaine d'artistes qui va être joué une fois. Enfin, aujourd'hui, on a la chance de doubler au moins tous nos spectacles. Donc, un spectacle qui est créé, il est joué entre 2 et 4 fois. Mais c'est très peu, finalement. Et on répète la veille et dans la journée. Le soir même, on joue, on enregistre. Le lendemain, dans la nuit, on corrige. Et puis, on rejoue le lendemain. Et puis ensuite, c'est fini.
Donc, la prépa est clé, hein. C'est un peu comme les films de ciné, là, tout se joue en prépa, quoi.
Complètement. On prévoit régulièrement des répétitions à Paris parce que c'est nécessaire pour arriver sur la scène de Montreux. Et puis derrière, évidemment, je disais, c'est capté. On a des diffuseurs, des partenaires. Aujourd'hui, c'est le groupe Canal qui diffuse deux de nos 5 galas. Et puis, l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux. Les sketchs sont découpés. Chaque artiste est publié. On publie régulièrement sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. On fait des podcasts. Donc, on a créé véritablement, avec Grégoire, un écosystème. Et on a aujourd'hui une équipe très fournie. Moi, quand je suis arrivé, on était moins d'une vingtaine. Aujourd'hui, on est pratiquement une centaine. Mmh. On avait, quand je suis arrivé, on avait un festival, le festival de Montreux. On créait 3 spectacles qu'on jouait sur 6 jours. Mmh. Aujourd'hui, on a 6 festivals dans le monde. Et Montreux, on fait 13 représentations sur 11 jours de 5 spectacles originaux.
Voilà. C'est impressionnant. Et donc, c'est vraiment depuis ce coup de fil, finalement, ça a été une vraie success story. Parce que Montreux Comédie, en Europe, tu disais, c'est en off, c'est le leader, quoi.
Oui, aujourd'hui, on est numéro 1 sur l'humour francophone. On a de nombreux festivals. Montreux est évidemment le vaisseau amiral. Et on a surtout, aujourd'hui, je crois, 4,5 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, dont 1,8 million sur la chaîne YouTube. Sur laquelle on publie des sketchs. Alors, la chaîne principale, c'est tous les mercredis à 18h. Et on a créé récemment Montreux Comédie encore, qui est une chaîne qui publie tous les vendredis à 18h des sketchs d'humoristes. Et donc, on a aujourd'hui des sketchs qui viennent de l'Afrique, puisqu'on est implanté en Afrique, à Abidjan. On a également un festival. On est à Cannes. Là, nous y serons fin juin. Mmh. On est à Lille en février. Et nous étions là il y a 15 jours au Canada où Grégoire et Chloé ont créé Exclame, et sur lequel moi je collaborais en tant que responsable artistique. J'avais en charge la création du gala de clôture qui s'appelait Babel, présenté par Mike Ward.
Tu dirais que c'est une force, tout cet aspect média qui a été développé. YouTube, on l'entend, hein, YouTube, le social media cartonné, ça a été un peu votre marque de fabrique, en plus de la programmation, d'aller très vite sur tous ces sujets d'amplification, je dirais.
Oui, j'ai l'impression de parler toujours de Grégoire Führer, mais en même temps, je nous considère véritablement comme un binôme. Grégoire est un idéateur. Et moi, alors je ne dis pas que je n'ai pas d'idées, mais moi, je suis plutôt un faiseur. Alors, je ne dis pas non plus qu'il ne fait pas, mais en tout cas, voilà, dans notre binôme, il a des idées et mon métier, c'est de mettre en musique ces idées-là. Et la vision de Grégoire, il y a longtemps, maintenant, il y a plus de 10 ans, ça a été précisément de débarquer sur le digital et de créer une chaîne Internet, enfin une chaîne sur Internet, une chaîne sur YouTube. À l'époque, il le disait, il n'avait pas les droits dans les contrats parce que les contrats avaient été signés à une époque où ça n'existait pas. Et on s'est dit, il s'est dit, allez, on y va. Et puis on verra bien. Puis on négociera éventuellement de gré à gré. Et puis c'est ce qui a permis de donner de la visibilité au festival toute l'année. Parce qu'évidemment, quand on jouait à Montreux, on jouait fin novembre, début décembre. On avait des diffusions en télévision, même s'il y a des rediffusions à l'époque sur France 4 tout au long de l'année. Le fait d'avoir une chaîne YouTube permettait d'être notre propre média. Et les artistes aussi ont trouvé leur intérêt. Aujourd'hui, souvent, ce que nous demandent les artistes, c'est « je suis diffusé sur quelle chaîne ?» Mais c'est aussi « je suis diffusé quand ?»« je suis programmé quand ?» sur la chaîne YouTube. Quoi.
D'accord. Donc, numérique, ça amène du financement ou tu dirais que c'est avant tout quand même la télé, le numérique? Maintenant, YouTube aujourd'hui a pu donner à des moments des budgets, parce que je sais qu'il y avait les fameux MCN à une époque, mais qu'ils ont réduit la voilure ensuite.
Non, nous on a suivi la filière classique, on a gagné des abonnés et on a pubé les contenus.
D'accord. Un sujet d'audience et de notoriété derrière.
De financement également, parce que c'est une ressource qui est directement réinjectée dans la création du festival.
Exactement. Et je crois que tu as d'ailleurs on va aller sur la prod, après on ira sur la partie fun, humour, mais c'est bien que les auditeurs aussi comprennent le mécanisme de production. Je crois que tu as environ un tiers qui vient de la billetterie, un tiers de la sponso et un tiers des droits télé, si on veut résumer.
Des droits de diffusion, ouais.
Donc
ouais,
ça, c'est comme ça qu'on finance, toi qui es le pro des festivals, c'est à peu près les basiques pour financer tout ça, parce que c'est des moyens évidemment de produire.
Je sais pas si c'est une constante, mais aujourd'hui nous c'est à peu près notre schéma de fonctionnement. Ouais.
La prod, toi qui es là dedans, c'est quoi? Donc finalement c'est quand même des grosses entreprises, parce qu'il faut monter des grosses éditions avec des instants T très forts avec les premières. Et après ça veut dire qu'il faut backer quand même assez tôt les financements avec les droits et tout ça. C'est
bien sûr. Nous on travaille un peu plus d'un an à l'avance maintenant sur la préparation d'une édition. On a des équipes spécialisées, on travaille avec des directeurs régionaux, des chefs de projet, on a des responsables de sponsoring.
Ouais, c'est gros, hein.
Oui, c'est nécessaire.
C'est un gros travail de prod.
On a un responsable institutionnel. Il faut, quand on s'implante quelque part, il faut, je dirais que c'est plus facile si on est bien accueilli et si les gens ont envie de nous. Il est évident que sur l'écosystème Montreux, on est soutenu par le canton, on est soutenu par la ville. C'est extrêmement, extrêmement important. Et d'ailleurs, là, c'est pas une info exclusive, mais en tout cas, c'est une info. Montreux, pendant 2 ans, ne sera pas à Montreux. Montreux sera à Lausanne.
D'accord. Pourquoi?
Le deuxième dossier, le palais des congrès qui nous accueille, va être en travaux.
Sympa Lausanne comme ville aussi.
C'est bien de tester autre chose. Donc Montreux reste Montreux, mais pendant 2 ans, on sera accueilli au théâtre de Beaulieu à Lausanne. Et du coup, on est évidemment en discussion avec la ville de Lausanne, qui devient un partenaire important. Et Montreux reste de toute façon, la ville de Montreux reste aussi un partenaire important. Mais c'est intéressant d'aller tester un autre écosystème. Lausanne a une population plus vaste que celle de Montreux, et du coup c'est aussi un test intéressant. On voit qu'on vend plus vite les billets de l'édition de cette année parce qu'il y a un bassin plus large qu'on peut toucher rapidement.
En tout cas pour la Suisse c'est top, c'est un des grands événements culturels, hein.
Je pense que c'est un des fleurons suisses en tout cas, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui Montreux Comédie et le groupe GF Productions qui pilote et qui produit Montreux et numéro 1 sur l'humour francophone. Ouais.
Alors on va parler, Yann, d'humour évidemment, parce que c'est ta passion, c'est ce qui est quand même sur le devant de la scène de tout ce métier. Ouais. Donc je crois que toi, tu es un grand fan d'humour. T'as vu les premiers Bigard, les Inconnus, les Palmades, tout ça, c'est des humoristes que tu as adoré même avant d'arriver aux comédies. Et peut-être parler de ta passion de l'humour finalement et comment ça évolue avec maintenant aussi les nouveaux talents YouTube et toute cette modernité qui arrive aujourd'hui. Quoi.
Oui, c'est quelque chose. Alors je pensais pas en faire un métier à l'époque, mais j'ai vu démarrer. Elle fêtait ses euh, Elle avait un anniversaire de carrière récemment, c'était Anne Roumanoff. Donc oui. je lui ai envoyé un petit SMS.
Qu'on salue, qui est venue d'une des premières au podcast d'ailleurs.
Tu m'as dit, oui, oui. Et Anne, qu'on a programmé à diverses occasions, je lui ai envoyé un petit SMS en lui disant: tu ne le sais pas, mais je t'ai vu démarrant dans ton premier spectacle dans un tout petit café-théâtre à Lyon. Moi, j'étais, j'étais ado. J'y suis
après Sciences Po, alors, parce qu'elle nous avait raconté qu'elle avait fait ses études à Sciences Po.
Ouais, ouais, alors elle pourra corriger si je me trompe, mais il me semble que c'était Bernadette Calme-toi. C'était son personnage. Et elle était dans un café-théâtre à Lyon. Et j'avais accompagné mes parents là-bas. Et
là, tu étais super jeune. Tu avais quoi, 20 ans
non, 30... J'avais une quinzaine d'années.
Ah oui, c'était ton premier spectacle marquant
ouais,
un peu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'était même mon premier spectacle d'humour. Et puis après, je suis allé régulièrement au spectacle. Et puis évidemment, en arrivant.
Déjà, ça t'a donné envie de bosser là-dedans?
Non, à l'époque, pas du tout. Non, d'accord. Non, c'était vraiment...
plus du divertissement au départ.
Oui,
quoi.
Oui, oui. C'était vraiment ça. Et puis derrière, alors j'ai fait des études de commerce. Et dans ces études de commerce, j'ai fait. Il m'est arrivé de me commettre un peu sur scène et plutôt dans des
tu
rôles.
Tu es toi-même talent humoriste.
Non, je suis plus humoriste que talentueux. Non, mais il m'est arrivé de contribuer modestement à quelques pièces, à jouer un peu dans du boulevard et choses comme ça. Et c'est souvent comme ça que les carrières se dessinent. Je me suis rendu compte que j'avais probablement plus de talent derrière la scène que devant la scène.
Oui, il y en a plein où c'est ça. Hein.
Voilà. Donc ça m'a donné envie. Puis ensuite, quand en arrivant vraiment à Paris, j'ai travaillé à la télévision. Et à la télévision, j'avais dans les productions dont je m'occupais, j'avais notamment en charge le spectacle vivant. J'ai travaillé à Comédie.
Ah oui.
J'ai été
à l'époque de la grosse émission.
J'ai
et tout
été
ça
directeur du développement de la chaîne Comédie.
Ça, c'était un laboratoire aussi.
Bien, voilà. Et c'est là que la passion humour est née véritablement. Et quand j'ai quitté Comédie pour j'ai été appelé pour créer France 4. J'étais dans l'équipe qui a créé France 4. On a créé dans la grille des programmes une place pour le spectacle vivant avec une fois par mois un direct. Et donc, on avait tout type de spectacle, enfin tout type. En tout cas, on avait du théâtre, on avait du one man, on avait ces choses-là. Et c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte qu'en termes d'audience, l'humour était quelque chose de porteur. Mmh. Et donc, on a... Alors, les plus jeunes n'ont jamais entendu parler de ça, mais on a un peu repris le modèle d'au théâtre ce soir en se disant une fois par mois, on fera un spectacle en direct à la télévision. Et c'est quelque chose qui, paradoxalement, ne se faisait plus vraiment à l'époque où nous, on l'a fait. Et on est allé chercher des pièces de théâtre et on est allé aussi chercher du one man. Et c'est comme ça qu'on a amené des artistes à la télévision. Les Chevaliers du Fiel, par exemple, on est allé les chercher. Je suis allé les chercher pour faire leur premier direct à la télé. Ils avaient eu des diffusions en télévision, mais ils ne l'avaient jamais fait en direct. Et donc, on a créé ce modèle-là. Il a fallu se montrer convaincant par rapport aux producteurs, parce qu'on allait les voir en leur disant: on va diffuser le spectacle à la télé. Ben non, si vous diffusez à la télé, vous allez tuer ma tournée. Et on leur a prouvé. Alors, on était sur France 4, c'était pas TF1, c'était pas France 2. On leur a prouvé que sur des chaînes comme celle-là, la diffusion et la multidiffusion généraient des ventes de tickets, à l'inverse de tuer les ventes. Donc, les Chevaliers du Fiel, encore une fois, je les cite parce qu'ils ont aussi été mes clients. Donc, ils m'ont aidé à me lancer quand j'ai créé ma propre société. Ont vraiment été convaincus de ce modèle-là. Et du coup, on a mis en place, eux, ils créaient leur spectacle. Et une des toutes premières représentations qu'ils faisaient était captée en direct. Ça faisait des scores absolument dingues. On a fini sur France 4, la dernière diffusion de leur spectacle, avant que je parte et que eux partent aussi. Du coup, on avait fait 1,8 million de téléspectateurs.
Pas mal.
C'était trois fois ce que faisait un prime sur la chaîne à l'époque. Et on le faisait en début d'exploitation. Et ça, c'était la meilleure pub pour aller vendre des tickets derrière. Les gens disaient: je l'ai vu à la télé, je veux le voir en vrai. Ou disaient aux gens: je l'ai vu à la télé, prenez vos places. Quoi. Voilà.
Non, c'est vrai que ça a accompagné tout ce moment de l'humour, la médiatisation de télé qui était au début nouvelle et puis après qui est devenue un must finalement.
Exactement. Et du coup, moi, c'est à Comédie que j'ai découvert les humoristes.
Comédie, ça a fait mes souvenirs de jeunesse. Moi, franchement, la grosse émission, qu'est-ce que c'était bien avec Adéo, Olivier. C'était pour moi cette émission, mais c'était, il y avait côté laboratoire, quoi.
Ah, complètement.
Avec des bouts de ficelle, mais c'était drôle, quoi. C'était vraiment drôle,
c'était
quoi.
C'était exactement
avec
ça.
Les Robins des Bois au départ.
Ouais.
Pourquoi
ouais.
Alors, c'est... Non, mais ça, c'est intéressant. Et alors, tes grands... On va parler un petit peu d'artistes. Toi, les grands... Après, on va parler de ceux actuels aussi, mais les grands, tes grands chocs, toi, d'humour, un petit peu, c'est dont on peut parler. Alors, on va leur rendre hommage un peu. Là.
Oui, bien sûr. Et... Alors, moi, j'ai commencé en tant qu'auditeur d'humour avec Coluche.
Oui, bon, bah là, voilà. Tu tapes fort des directs, là.
Alors, les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai 50 ans.
Tu ne les fais pas dans la voix.
Ils l'ont compris quand je cite cette référence.
Donc, Michel Colucci, pour démarrer. Voilà, bon, c'est un peu le pionnier. Enfin, il inspire tout le monde, celui-là.
Oui, absolument. Donc, moi, c'était ça. Je te dis, Anne Roumanoff, forcément, puisque c'est la première humoriste que je vais voir véritablement sur scène. Donc, c'est le choc de découvrir la scène. Et puis, derrière...
Les Inconnus, moi c'était mon enfance.
Tu les as cités, voilà, c'est les inconnus, c'est pareil.
Plus
sur scène.
Les Inconnus que nuls. Parce que c'est le fameux débat, le fameux battle.
Ouais, alors les nuls, c'est l'humour à la télévision. Oui. Les nuls ne faisaient pas d'humour sur scène.
Les Inconnus ont un côté un peu plus, voilà. Je trouve, ouvert, personnellement.
Les Inconnus ont fait de la télévision, mais moi je les ai connus sur scène.
Ah oui, ils ont vraiment démarré en pure scène.
Moi je les ai connus sur scène. Oui. Je peux te citer la référence du Petit Théâtre de Bouvard aussi, parce que c'est vrai que c'était une émission quotidienne, tu voyais énormément de gens démarrer. Mm-hmm. Donc... cette génération-là, j'ai commencé à l'amour. Ouais, c'est ça. Donc, pareil. Alors moi, j'ai pas vu Le Père Noël est une ordure sur scène. Alors, en tout cas, je l'ai vu enregistré. Donc, j'ai vu la pièce à la télévision. D'accord. Je les ai pas vus sur scène.
Okay.
Mais par contre, j'ai vu démarrer des gens comme Florence Foresti.
Ah oui, quand même. Qui a eu une belle percée.
À l'époque où elle ne jouait pas, toute seule.
Et la télé a joué un rôle, hein, parce qu'il y avait les chroniques avec Laurent Ruquier et tout ça.
Bien sûr. Oui, ouais. La télé a été pour elle, en tout cas, un accélérateur. Je ne suis pas toujours très, très copain. Pourtant, la télé, c'est mon écosystème de base. Ouais. Mais je ne suis pas toujours certain que les humoristes font bien en allant à la télévision. C'est un exercice extrêmement difficile. Tout ne peut pas se faire à la télévision. Tout le monde n'est pas fait pour la télé. Il y a beaucoup d'humoristes qui s'abîment, je trouve, à la télévision. Au prix d'une recherche de notoriété, c'est pas toujours,
il faut reconnaître qu'un Laurent Ruquier, je trouve qu'il a été bon parce qu'il a mis sur le devant avec les Jonathan Lambert, et où les Nicolas Bedos, il a mis un moment sur le, ou Philippe Cavrivière que j'adore. Alors
c'est
un autre style, hein, mais on l'a reçu au podcast.
Non, mais bien sûr.
Il est même, je trouve qu'il est un des temps forts de l'émission, Philippe Cavrivière. Il est super drôle.
C'est pour ça que je fais pas de généralité. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas faire d'humour à la télévision, ce serait idiot. Je dis juste que tout le monde ne peut pas aller faire de l'humour à la télévision.
Et surtout aujourd'hui, peut-être aussi.
Mais je parle même pas de censure ou de propos ou de choses comme ça. Je parle d'adéquation entre ce qu'on a à raconter, la façon dont on le raconte et la façon dont c'est reçu et perçu. Tu parles de Ruquier. Ruquier a propulsé des humoristes. Et il y a aussi des humoristes qui sont passés chez Ruquier dans d'autres émissions où tu sentais véritablement une souffrance, quoi, tu vois. Et donc, dans ces cas-là...
Il faut une appétence et s'adapter au programme.
Dans ces cas-là, si t'es pas bien, il faut
tu
arrêter.
Tu penses que ça... Alors, c'est le fameux débat, parce qu'aujourd'hui, les gens disent « Ouais, on peut plus rien dire, on est en 2023. » C'est vrai, quand on pense à l'époque des Inconnus, alors c'est toujours le fameux « c'était mieux avant », mais est-ce qu'en vrai, c'était un peu plus libre avant, tu penses?
Non,
pas forcément.
Non, mais je crois que pas du tout.
Mais aujourd'hui, il y a plus d'une espèce d'autocensure avec tout ce truc des réseaux sociaux,
c'est pas exactement la
comment
question.
Tu formulerais le truc.
La question que tu poses, c'est est-ce qu'on pouvait faire plus de choses avant? Je crois qu'on peut faire plus de choses aujourd'hui. Maintenant, l'écho que tu donnes à toutes les choses
n'est
que
pas
tu
le même.
Fais aujourd'hui fait que tu te prends en boomerang la réflexion des autres. Objectivement. Moi, j'aime pas trop cette idée de aujourd'hui, des proches pourraient plus faire ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais d'abord, si des proches étaient encore vivants et toujours humoristes, ils ne feraient pas aujourd'hui ce qu'ils faisaient à l'époque.
C'est que l'écho n'est pas le même.
Non, mais c'est...
Tout prend un écho, c'est ça la différence.
Mais c'est ça, les sujets sont différents. Mais
c'est comme la phrase du Festival de Cannes de la réalisatrice. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça aurait été une phrase un peu moins relayée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout propos aujourd'hui, qui peut-être existait avant, c'est x20 en termes d'écho.
C'est exactement ça. Je crois vraiment, quand je te parle de ça, moi, le fait d'entendre dire « oui, c'était mieux avant, on ne peut plus rien dire », à l'époque, tu avais beaucoup moins d'accès aux médias, tu avais moins de radio, tu avais moins de télévision, y avait aussi beaucoup moins d'humoristes. Donc, oui.
C'était moins ouvert quelque part. Il n'y avait pas le YouTube, il n'y avait pas les nouveaux talents sur Instagram, il y avait tout ça.
Et puis, on parle de des proches, mais tu peux parler à l'inverse de Coluche qui s'est fait virer, j'ai plus le nom en tête, je crois. C'est au moins deux fois de la radio. Il n'y avait pas forcément accès à la
télévision. Oui, donc ça existait aussi. Hein. Ils sont fait dégager aussi. Il y a eu des censures, il y a eu des trucs.
Mais il y en avait plus qu'à l'époque. Simplement, ils étaient moins nombreux, très médiatisés, parce que cet accès, il était celui qui... c'était forcément différent. Aujourd'hui, les humoristes ont, à mon avis, une plus grande liberté d'expression.
Oui,
et ils ont surtout beaucoup plus de champ pour s'exprimer. On n'est pas obligé d'aller à la télévision, on n'est pas obligé d'aller à la radio pour s'exprimer. Mais la télévision... met énormément d'humoristes en avant. Alors après,
peut-être la télé qui est devenue moins audacieuse en fait, parce que finalement la télé, il y avait, ça c'est mon point de vue.
Certainement.
Je trouve que les années des comédies, les Hardissons, les émissions Fleuve qui étaient quand même ouf, où il se passait des trucs. Il y avait un côté plus expérimental dans la télé,
oui.
Qui je trouve, comme les débuts de Canal aussi.
Bien
et c'est peut-être ça qu'on a perdu un petit peu, je trouve.
Alors je pense qu'il y a toujours des créateurs.
Oui, il y en a des bons quand même.
Après la difficulté de la télévision. C'est qu'elle doit fédérer, elle doit fédérer le plus grand nombre et qu'elle doit essayer d'être transverse vis-à-vis des générations. Elle doit réunir des très jeunes, des jeunes, des moins jeunes plus âgés. Donc par essence, c'est compliqué. Je pense que l'humour est plus discriminant que la musique. C'est plus facile de réunir la famille sur un programme musical, même si c'est pas simple. Alors que l'humour, c'est souvent plus contrasté. J'aime beaucoup un tel, mais ma mère déteste. Ma maman aime bien un tel, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc c'est compliqué de réunir la famille. Et puis je pense que la télévision... Dans cette notion de grand public, moi, je l'ai vécu en tant que
diffuseur,
professionnel de la télévision.
T'étais de l'autre côté, quoi.
Quand je discutais avec quand j'achetais les droits d'un spectacle, j'avais une vision très télé en disant il faut des têtes d'affiche, c'est les têtes d'affiche qui attirent du monde, etc., etc. Aujourd'hui, en tant que programmateur et producteur artistique, je me sers de mon expérience télé. Mais je vois bien que, évidemment, il faut toujours que c'est plus facile d'aller vendre un spectacle, d'attirer du monde en télévision avec des noms qui sont connus. Mais je sais, et on l'a démontré, que les bonnes surprises viennent des gens qu'on est capable de programmer autour de ces gens-là. Moi, je me souviens...
Les fameuses premières parties et tout
ça. Pas les premières parties. Le fait d'avoir un spectacle multi-artiste fait que tu vas programmer... T'as deux têtes d'affiche et au milieu de cette tête d'affiche, t'as un gars qui débute. Tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il a du potentiel.
Oui.
En tout cas, tu le sais.
C'est le nouveau talent, quoi.
C'est une
surprise.
À Montreux, c'est devenu le festival des nouveaux patrons de l'humour. C'est-à-dire qu'on finit d'accompagner des artistes qui gravissent la montagne sur la face nord et sont sur le point de basculer au sommet.
Tu citerais qui justement dans ces nouveaux talents que tu veux vraiment signaler ?
Je peux t'en citer plein, mais je vais te donner un exemple.
Oui.
C'est Verino. D'accord. Verino, aujourd'hui, il est incontournable, tout le monde le connaît. Probablement pas aussi connu que Gad Elmaleh ou Florence Foresti, mais... Quand on le programme à Montreux pour la première fois, personne ou à peu près ne le connaît. Mais il est déjà talentueux. Et il est programmé dans un gala avec des têtes d'affiche. Et la révélation de ce gala-là, ce que les gens vont retenir, c'est comment lui va retourner la salle.
D'accord.
Et ça, je peux te donner des exemples. Je peux t'en donner au moins un par édition qu'on a produite. Et je peux probablement t'en donner
ça,
un
c'est
par
sympa.
Gala.
C'est comme ça que naissent les vrais humoristes. Quoi. Il y a
ça.
Des moments clés avec le public
et
il y a quelque chose qui se passe. Quoi.
Et un accélérateur derrière grâce à la diffusion télé et plus particulièrement aujourd'hui aussi au digital. Je te donne un autre exemple. Verino, aujourd'hui, il est installé. Il sera d'ailleurs notre headliner, notre tête d'affiche le 30 juin à Cannes. On a un festival qui s'appelle Big Perf. C'est lui qui prend en charge le gala de clôture. Je te donne un exemple. Paul Mirabel.
Ah oui, alors lui, on en parle pas mal.
Paul Mirabel, on n'est pas découvreur de Paul Mirabel. Je ne suis pas programmateur ou producteur de Paul Mirabel. Paul Mirabel, il est à l'époque au Jamel Comedy Club. Donc il est...
Qui a fait beaucoup quand même pour les nouveaux humours.
Évidemment.
Ça a été clé, le Jamel Comedy Club.
C'est pour ça que je le cite. on ne revendique pas la découverte de Paul Mirabel. Mmh. Il est au Jamel Comedy Club. Il commence sa carrière. C'est un besogneux, hein, Paul. Il écrit beaucoup, il corrige.
Il est discret. Il on l'a vu dans LOL et il est discret. Hein.
Oui, il est discret, mais il est travailleur. D'accord. Avant d'être c'est discret, il est travailleur. Okay. Et il se remet en question. Vraiment, il s'enregistre. Il travaille sur ces choses-là. Et on le programme à Montreux.
Ouais.
Et le mec est ovniesque, hein. on pouvait, son sketch est toujours sur la chaîne du Montreux Comédie, vous pouvez le voir, Salam Leroya, il bouge pas derrière son micro et il éclate la salle.
Ah ouais,
il éclate la salle, mais vraiment.
Tu étais, toi, tu étais
dedans. Bien sûr, évidemment, je suis producteur artistique du gala. Et je suis même plus que.
Mais tu as été surpris de la réaction, même toi, quand tu as vu.
Complètement, complètement. Ouais.
Vous avez fait le taf pour, évidemment.
Voilà. Mais ouais, enfin, quand tu propulses un gars.
Mais il y a une part de mystère quoi, que les mecs s'apprennent.
Quand tu propulses un gars sur scène, tu sais jamais comment ça va se passer. Et puis la magie du spectacle vivant fait qu'un jour t'es bon, le lendemain t'es moins bon. Si on tombe sur le jour où t'es moins bon. Bon, le mec il a one take, hein, il joue qu'une fois. Mmh. Donc vraiment, c'est nécessaire d'y aller et il va exploser la salle. Mais vraiment, le mec est ovniesque, il va exploser la salle. On publie ça sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et le truc prend immédiatement. C'est chopé par... le truc est bon, évidemment. Donc, c'est vu, c'est recommandé, c'est chopé par l'algorithme, etc.
C'est repris, quoi.
J'ai pas regardé les chiffres, là, avant de venir te voir, mais on est à 25 millions de vues aujourd'hui.
Waouh.
25 millions de vues. Et donc...
Là, il y a l'effet boule de neige.
Ce truc-là, et il faudrait poser la question à Paul, et il faudrait poser la question à ses producteurs. Encore une fois, on ne revendique pas la découverte de Paul Mirabel, mais la... son passage à Montreux et l'exploitation qui a été faite de son passage sur les réseaux sociaux a véritablement boosté sa carrière. Aujourd'hui, Paul Mirabel, qui est un jeune humoriste, il est sur la fin de son premier spectacle, il a terminé son premier spectacle là, il y a assez peu de temps, prépare le second, enfin le deuxième, pardon. Mm-hmm. On lui souhaite que ce soit pas le second, mais bien le deuxième. Il remplit des salles, quelle que soit à peu près la capacité, sans avoir à faire de pub ou de promo. Et encore une fois, cet effet-là, il est d'abord dû à son travail et il est accéléré par la diffusion à Montreux sur les réseaux sociaux.
Toi qui es dans le taf de prod, parce que nous on aime bien tout le sujet du storytelling, des scénars, moi je suis de l'école de l'écrit, donc j'imagine toi aussi, c'est vraiment ça la difficulté et le nerf de la guerre pour les humoristes, c'est ce travail pendant une année un peu marathon où il faut tomber le spectacle, ça c'est un gros truc. Comment tu vois ça, toi? Parce qu'il faut réussir à se renouveler chaque année et taper fort, toujours pareil. Il y a un côté cuvée de vignoble, quoi. Comment tu vois ça, les spectacles, les conceptions de spectacles?
Non, je dirais, d'abord, un spectacle, c'est pas un an. Souvent, un spectacle, tu vas le tourner pendant 2-3 ans.
Oui, en plus.
J'en connais même qu'ils le tournent pendant 6 ou 7 ans.
Il y a des sketchs qu'on revoit. Les bons sketchs, ils les revoient 25 ans après, les
évidemment,
mecs.
Évidemment. Non, mais alors moi, je suis comme toi. Je viens de l'écriture. Je crois beaucoup au travail de l'écrit. Je crois beaucoup à la rythmique, je crois beaucoup à la façon d'écrire des blagues et après à la façon de les livrer, évidemment. C'est-à-dire que si on a une très bonne blague et si Roman Fraissinet et moi jouons la même blague, il est probable qu'il obtienne un tout petit peu plus de rire que moi, même si, je te le rappelle, je suis extrêmement drôle. Donc, mais il y a ça. Et donc, le travail d'écriture, il est extrêmement important. Et parce qu'on est sur du spectacle vivant, je pense qu'il y a aussi une obligation de remise à jour régulière, à la fois pour suivre l'époque dans laquelle tu évolues, dans laquelle
d'update,
tu joues.
Comme on dit.
Et puis, je pense aussi qu'il y a un besoin viscéral de ne pas jouer toujours la même chose, donc de remettre un peu à jour son spectacle. Et puis, c'est de l'artisanat, le spectacle vivant. Donc, tu es obligé de polir régulièrement.
Oui, de réécrire.
Et du coup, voilà, il y a des vannes. Et je te parlais de Paul Mirabel, mais je pourrais t'en citer plein d'autres. Vraiment, c'est du crafting, quoi, tu vois. Mmh. Je citais Roman Fraissinet. Roman Fraissinet, il a un rythme, il y a une écriture et en même temps une delivery, le fait de raconter les blagues qui font sa patte. Mais il est toujours, il aime pas raconter toujours la même chose, donc il travaille en permanence et ça c'est extrêmement important.
Le côté co-auteur peut devenir important. On a reçu Lionel Lionel Dutemple qui avait travaillé sur les haches et tout ça. Tu penses aussi que ça peut amener un nouveau souffle, et c'est pas toujours facile quand on est soi-même l'artiste d'avoir le recul sur la réécriture, le travail. Je sais quoi, il y avait Lionel, il avait cité, il a été souvent cité, Kader Aoun, qui était un peu le sniper et qui a pu faire pas mal de spectacles. Tu penses que ça peut amener aussi un plus, ou tu vas dire que ça s'adapte à chaque artiste?
Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des gens qui sont très bien tout seuls, très bons tout seuls, et qui ont derrière, qui demandent un regard extérieur et qui leur permet de calibrer. Mais c'est presque du script doctoring dans ces cas-là.
Tu lis, toi, tu fais beaucoup de feedback et tout ça sur les réécritures et tout ça, ou tu laisses assez libre en vrai?
Alors attends, je vais finir de répondre à cette question. C'est intéressant. Et puis t'en as d'autres qui effectivement ont besoin de travailler en bande. Baptiste Le Caplin travaille avec Flaubert. C'est important pour eux. Encore une fois, je ne vais pas répondre à la place de Baptiste à une question que tu ne lui as pas posée. Mais je sais, c'est un bon exemple d'une collaboration régulière. Alex Vizorek avec Pierre Charette. Et d'autres auteurs pour Alex. T'as de temps en temps, souvent même, besoin effectivement d'être accompagné dans l'écriture. Mais au-delà de ça, que tu sois seul ou que tu sois accompagné, si t'es accompagné, il vaut mieux être bien accompagné. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut écrire. Alors, je ne veux pas paraître vieux con en disant ça, mais je le constate aussi de temps en temps sur certains jeunes artistes. Nous, ce qu'on fait, ce que je fais à Montreux et sur les festivals dont j'assure la production artistique, je demande les textes.
D'accord.
Je demande les textes, je les demande suffisamment à l'avance pour avoir le temps de les relire. Il n'y a pas de censure, hein. c'est pas à but de censure. Il y a un double but, ça nous permet de créer ce qu'on appelle un conducteur avec une conduite texte pour que l'ensemble des gens qui travaillent sur le spectacle aient cette conduite-là. La création des éclairages, la création du décor, le réalisateur et la script, les équipes techniques, parce qu'il y a des indications importantes de matériel à entrer et à sortir, c'est très important. Et puis éditorialement, pour moi, mon boulot, il est de veiller à la cohérence de la création d'un spectacle, donc de m'assurer qu'il n'y a rien qui est complètement déconnant. Et puis surtout, c'est un avantage, ça me permet, en lisant, de m'assurer qu'il n'y a pas des blagues qui se ressemblent. Mmh. Et je ne parle pas de plagiat, hein. Je parle véritablement
c'est
là
encore un autre sujet,
de
ça.
thématiques, on dira tiens, voilà, alors lui il parle de ça, elle parle de ça,
oui,
aussi.
Oui, qu'il y a une programmation équilibrée, quoi.
Et puis on va essayer d'aller écarter, parce que tu peux avoir une même thématique traitée de deux façons différentes, c'est un peu compliqué si tu les as tout de suite derrière. Mmh. Donc ce boulot de lecture et de relecture, il sert aussi à ça. Et il m'est arrivé, et ça m'arrive une fois par festival en général, d'appeler deux artistes en disant, dis donc, j'ai reçu ton texte. Je voulais te dire, j'ai reçu avant toi le texte de machin, vous avez la même blague, donc il faudrait que tu changes. Ah ouais, mais moi c'est un truc que je fais depuis... Écoute mec, moi je vous ai demandé à tous les deux, enfin à tous en même temps le texte, il me l'a envoyé il y a 15 jours, tu me l'as envoyé aujourd'hui, il est prioritaire sur le truc, je veux pas savoir qui a la paternité de la blague.
T'as joué ton Didier Deschamps là, c'est l'entraîneur là.
Voilà, exactement, je te disais, mettre en musique c'est un peu ça, c'est un boulot,
tu vois,
c'est un boulot de chef
aussi
d'orchestre.
Des personnalités.
C'est un boulot de chef d'orchestre. Donc voilà. C'est ce travail-là, ce travail sur l'écrit est important. Et quand je discute avec certains jeunes artistes et que je réclame ces textes, de temps en temps, moi, j'écris pas. Ah, mais la machin, etc. Et souvent, c'est quand même, encore une fois, je suis désolé, je suis pas l'alpha et l'oméga de l'humour, je suis pas docteur, je suis pas ceinture noire en stand-up. Je te donne juste mon sentiment. Je pense que ceux qui écrivent et ceux qui travaillent régulièrement, c'est souvent plus construit, mieux amené que ceux qui ont simplement quelques notes et ont tout dans la tête. Et je pourrais évidemment, parce que c'est ça qui est beau dans ce métier, je pourrais aussi te donner des contre-exemples de gens qui écrivent très peu et qui sont des véritables punchliners, des véritables génies et qui cartonnent tout. Tu vois, donc il n'y a pas de vérité absolue. Mais moi, je suis cette génération qui lit et qui écrit.
Mais alors Yann, on arrive dans la dernière partie du podcast. Avant d'arriver dans le fini, j'ai une petite question quand même de curiosité, parce que c'est tout l'essor des stand-up. Il y a eu la série Drôle. Moi, ça me fait penser aussi aux artistes américains, des Robin Williams, des grands qui ont aussi eu des belles carrières dans le cinéma. Comment tu vois ce phénomène du stand-up? Tu penses qu'il va se développer de plus en plus aussi, ou il est un peu spécifique? Je ne sais pas ce que tu as pensé de la série Drôle notamment, ou de LOL, bon, t'as le droit d'avoir moins aimé, hein. évidemment. Hein.
Alors, je vais te répondre sur le stand-up aujourd'hui. Je pense qu'il a pris beaucoup de place. C'est un peu le
côté tarte à la crème un peu.
Moi, mon père est pépiniériste, donc j'allais rentrer un peu dans le domaine agricole. Fleurs, tu sais, tu as des espèces endémiques à une région, et puis de temps en temps, tu viens planter un truc, et puis tu retrouves de ce truc-là qui n'était pas de la région, tu le retrouves partout.
D'accord.
Mais ça, il en va par exemple, je sais pas, du mimosa, okay. ou des choses comme ça. Je pense que le stand-up est une espèce qui nous vient des États-Unis. Alors, mm-hmm. On peut contester ce truc-là, mais bon, quand même, je dirais que l'essence est là. Donc, on n'est pas à la base le pays du stand-up. On a importé ce truc-là et on l'a fait croître. Et aujourd'hui, il a essaimé partout. Jusqu'à parfois prendre beaucoup de place avec le développement des comedy clubs et choses comme ça. Et moi, je suis très heureux. Hein. Je suis un grand fan de stand-up. Tu citais des références américaines. Moi, j'ai effectivement commencé par là. Et aujourd'hui, on a des stand-upers francophones.
T'as un peu suivi ça aussi, d'ailleurs, les talents anglo-saxons. Tu suis un petit peu aussi.
Oui, bien sûr. Moi, le stand-up, moi, je l'ai connu d'abord par là. Encore une fois, je le répète, j'ai 50 ans. Quand
Eddie
moi,
Murphy,
je me suis intéressé.
Etc. Mais même, Jerry Seinfeld.
Et tu citais Robin Williams. J'ai commencé par là. Donc ça a poussé, et puis t'en as aujourd'hui partout, jusqu'à un peu pousser un peu hors de scène ceux qui font pas du stand-up. Encore une fois, c'est pas une vérité établie, c'est un sentiment que j'ai aujourd'hui. Quand tu fais des personnages, quand tu racontes des histoires, quand tu fais du seul en scène, t'es pas marginalisé, mais en tout cas t'as moins de collègues. Le stand-up aujourd'hui, t'as énormément de gens qui font du stand-up. Donc ça a pris beaucoup de place. Et je pense que, alors encore une fois, je ne sais pas si on arrive à saturation et si on est sur le haut de la cloche. J'ai pas d'études statistiques à vous donner là-dessus, mais je sais qu'il y a maintenant des projets de création de salles et de comédie clubs qui veulent donner de la place à autre chose que du stand-up.
Ah, okay.
Pour que les gens puissent pour monter sur scène en étant seul et pouvoir jouer des personnages, pouvoir proposer d'autres choses que, je sais pas si vous avez remarqué, je rentre dans la caricature, je veux pas le faire, mais dans le stand-up, dans le straight stand-up, quoi. Voilà. Donc c'est je pense qu'il y a de la place pour tout, et puis surtout il y a un public, c'est le public, c'est l'envie du public
qui dicte,
à partir du moment où tu as une offre pléthorique de stand-up, ben, le public fait son choix dans les artistes qu'il a envie de voir.
Après, ça dépend des quartiers, des salles, de plein de choses, du local aussi.
Les salles de stand-up là aujourd'hui elles sont un peu tout autour les unes des autres, dans le 11e.
C'est dommage qu'il n'y ait pas dans les gros, il y en a aussi pas mal à Bordeaux, dans les grandes villes
ça se développe. On parlait récemment de Nantes en disant il est en train de se passer quelque chose à Nantes sur la scène.
C'est
sur
bien.
La scène stand-up, donc c'est très très bien. Il faut pas être centré sur Paris, mais c'est vrai que les salles stand-up aujourd'hui à Paris elles rayonnent sur un petit secteur. Un artiste me disait, pour moi c'est pratique, je sors de joke, je vais au Madame Serfati, j'ai fini au Serfati, je vais au Fridge, je pousse un peu plus loin, je vais à la scène Barbès, etc. le Goku, il y a d'autres lieux qui sont en train de se créer, donc il y a quand même pas mal de choses, quoi.
Donc tu as bien préféré Mrs. Maisel à Drôle. J'ai compris que j'ai adoré Mrs. Maisel, qui était une super. Tu l'as
alors,
vu, j'imagine.
Mrs. Maisel, j'ai aimé les deux premières saisons.
Voilà.
Les deux premières saisons. Et j'ai laissé tomber au début de la troisième. Je trouve que ça mène plus nulle part.
D'accord.
Et tu me posais la question, tu me disais Drôle et LOL. Alors j'ai regardé Drôle. Je ne peux pas dire que ça m'est bluffé.
Oui.
Et j'ai cru comprendre que je n'étais pas le seul à ne pas avoir été bluffé. Et je t'avoue que alors c'était peut-être une prise de risque, mais j'aurais bien vu de vrais stand-upers dans leur propre rôle. Je pense qu'il y avait de la place parce que les comédiens de stand-up sont des comédiens. Et je pense qu'il y avait des choses à faire. Il y a probablement plein de bonnes raisons pour lesquelles ils ont fait autre chose.
Okay.
Mais en tout cas, je pense que ça pouvait essayer. Et je suis triste de voir que la saison 1 sera la seule saison. Et c'est toujours un peu triste. Et quand tu me citais LOL,
oui.
Alors, LOL, moi, je m'y suis intéressé très tardivement. Je m'y suis intéressé sur la troisième saison parce que j'avais des copains dedans. Donc, j'avais pas vu les deux premières. C'est pareil, je suis... Oui. Bon, ça, pour le coup, c'est un gros
succès.
T'es
comme moi un peu gêné
succès.
Parce qu'il y a un manque un peu de narration et d'écriture. On repose trop sur de talents, des gens qui sont pas tout le temps des humoristes. Il y a ça aussi.
Ouais. Mais c'est, encore une fois...
Pourtant, il y a une grosse promesse au début, je trouve. Mais sur la longueur, ça, moi, je suis un peu comme toi. Je trouve que j'ai pas été éclaté pendant tout le truc.
Alors, tu mets dans la bouche des mots que j'ai pas prononcés.
Non, non. Alors,
je tempère mon avis. Je suis allé au bout de la saison avec Paul Mirabel. Je trouve que la mécanique, en venant de la télé et en travaillant aujourd'hui à la production artistique de festival, moi je suis un besogneux, j'ai besoin de poser un cadre. Et du coup, je suis un amoureux de la mécanique et je suis surtout amoureux des mécaniques silencieuses. Donc c'est quelque chose qui LOL, c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup de respect. Après il y a plein de critiques à faire, mais c'est un programme qui fonctionne. Tout n'est pas parfait, c'est quelque chose d'intéressant.
Donc tout le bashing qui est en train d'avoir lieu aussi, je trouve que c'est un peu ridicule. Ouais. Enfin, on va pas rentrer là-dedans.
Non, mais chacun son avis. Après, le bashing, enfin, je sais pas si tu fais référence à ce que disait Blanche, par exemple.
Mais c'est pas un problème
de mécanique dans ces cas-là.
Elle juge l'aspect financier de certains talents qui sont allés prendre des cachets.
Elle a le droit de le faire.
Et d'autres ont eu le droit de lui répondre d'ailleurs.
Elle a le droit de juger. Et d'autres qui l'ont fait ont le droit de répondre pourquoi ils l'ont fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont le droit de répondre. Qu'ils en pensent aussi, je pense que c'est...
Est-ce que ça va pas un petit peu avec le côté où en France l'argent est toujours un peu tabou entre nous? Il y a toujours un rapport à ça qui est quand même, on n'est pas des anglo-saxons, alors qu'il y a un côté, peut-être voir un peu plus le travail, le débat sur la qualité que sur les histoires d'argent.
Dans l'absolu, tu as raison. Dans ce cas présent, je veux pas juger de l'opportunité des déclarations des uns et des autres. Je comprends ce qu'a dit Blanche.
C'est une grande quand même, faut quand même la citer.
Elle est exceptionnelle, Blanche Gardin. Elle le sait.
Blanche Gardin, bien sûr,
elle le sait. Je suis éperdument amoureux d'elle, dans un sens totalement platonique. Elle le sait aussi. Non, mais je suis.
Bon, elle sera touchée, quoi. Je me rattrape un peu.
Alors, je vais me permettre de citer mon papa qui n'est pas dans l'humour, qui était pépiniériste. Je l'avais emmené voir Blanche avec ma maman. Et il m'a envoyé un petit SMS après le spectacle en me disant il l'a décrivé en disant des horreurs magnifiques. Voilà, je crois que c'est ce qui résume parfaitement son style-là. Et ça peut être aussi ça, l'humour, c'est cette ambivalence, ce revers du
médaille. En tout cas, elle a un côté où elle tape. Moi, c'est vrai que ça qui est fort avec une Blanche Gardin, c'est qu'au moins, elle ne laisse personne indifférent. Elle a énormément de talent. Elle a un nouveau quelconque, je ne sais pas si tu peux révéler. Ah, il dit pas trop de choses, Yann.
Non, alors je suis hyper bien informé. Je n'ai rien à révéler, je peux juste dire que... Je sais qu'elle a tout ce qu'il faut pour revenir sur scène.
Ah, oui, là.
En elle. Non. Encore une fois, ne me prête pas des propos qui ne sont pas les miens. Je ne te dis pas qu'elle a fini d'écrire un spectacle. Ce n'est pas du tout ça. Je te dis que son talent, je ne dis pas non plus qu'elle a l'envie. Je ne suis pas dans son équipe.
Okay.
Non, mais je ne travaille pas dans son équipe. Je ne suis pas porte-parole de Blanche. Je te dis juste qu'elle a un immense talent. Elle se consacre à du cinéma actuellement. J'espère qu'elle aura envie de revenir sur scène parce que je sais qu'elle a tout le talent nécessaire et qu'elle a tout ce qu'il faut pour réécrire un nouveau spectacle. Mais on le disait tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Ça peut être une véritable souffrance. Blanche est quelqu'un qui écrit et écrit énormément. C'est un processus complexe qu'elle maîtrise. Mais ça peut être aussi une douleur. Il y a d'autres artistes qui ont décidé de mettre la scène un peu en retrait parce qu'ils étaient...
Mais ça peut être lourd à porter, quoi.
L'arrêt du Covid et la reprise pleine balle, le fait d'être souvent un peu seul en tournée, le fait d'avoir peu de temps pour rentrer, ne serait-ce que d'être chez soi et de vivre avec sa famille, avec ses amis. La scène, c'est pas un chemin pavé de roses. Donc, il faut souvent du temps, il faut assumer son spectacle et puis entre deux spectacles aussi prendre le temps respirer et vivre. Je pense que c'est ça qui est important.
En tout cas, c'est un grand merci. Je pense que les auditeurs auditeurs, ils vont adorer ce podcast. Moi, je prends beaucoup de plaisir parce que franchement, tu nous révèles vraiment toutes les coulisses de l'humour. Alors, toute dernière partie du podcast, alors c'est la question que je pose à tous les invités, c'était goût en matière, là je sors de l'humour peut-être, ciné, série, musique, BD, une ou deux créations peut-être qui t'ont marqué, récentes ou de tout temps. Voilà, et puis après ça sera la dernière question.
Ouais, alors c'est je veux pas sembler monotâche, mais c'est vrai que le mon boulot est un boulot passion, donc ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc mes sorties, elles sont essentiellement au théâtre.
Humour.
Je vais pas te mentir. Donc j'aurais bien du mal à te citer des films fantastiques que D'accord. j'ai vus récemment. Je suis pas allé au cinéma tout récemment.
Depuis
longtemps. Donc j'ai
plus
pas
sensible
de...
à ta vie avec le spectacle vivant et ce côté sortie scène. C'est vrai que c'est unique le spectacle vivant.
Après je reste je vais quand même de temps en temps au cinéma. J'y suis allé il y a pas très longtemps. J'ai vu les Trois Mousquetaires.
D'accord.
J'ai vu les Trois Mousquetaires. Ouais, j'étais en train de chercher le truc.
D'accord.
Merde,
ça t'a plu?
J'ai passé un bon moment. Oui, j'ai bien aimé.
D'accord.
Oui, puis alors j'ai encore une fois toujours l'impression de tomber d'un arbre, mais j'ai découvert François Civil. C'est François son
Civil,
prénom.
Ouais. Oui.
Découvert François Civil.
Ah, il est bon.
Je trouvais absolument formidable. Et pareil, je boucle avec l'humour parce que j'ai vu le podcast, enfin l'émission de Kian Kojandi, Hot Sauce, et avec Pio Marmaille et François Civil, et j'ai pleuré de rire.
D'accord. Si
vous n'avez pas vu Hot Sauce,
c'est
Kian Kojandi.
Ah oui, bref. T'es bien bref. Hein.
Ouais. et du coup, François Civil et Pio Marmaille font une émission. Moi, vraiment, je pleurais
d'accord.
d'ailleurs.
C'est sur quelle chaîne? C'était du YouTube ou de la télé?
Tu le trouves sur MyCanal.
On va regarder. Et la toute dernière, c'est le conseil que tu donnerais à un nouvel humoriste qui veut se lancer ou même un nouveau manager d'artiste de l'humour. Voilà, un ou deux petits conseils que tu transmets.
Pour un nouvel artiste, ça va dans le sens de ce que je disais. Je pense qu'il faut travailler, écrire, prendre du plaisir et remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. Ça a l'air basique, mais je pense que si tu... On fait pas ce métier-là, c'est pas du one shot, on a du temps pour faire les choses et donc tu peux pas faire tout le temps la même chose exactement, même si l'humour pour moi aussi c'est une mécanique. Quand une blague elle est bien écrite et bien livrée, elle fonctionne, tu vas pas réinventer le truc, mais en tout cas il faut que tu complètes régulièrement ton spectacle. Ça c'est moins d'actualité ou si ça me correspond moins, donc
toujours
ça je fais l'effort de le changer et puis pour garder l'envie. Pour un manager d'artiste, Écoute, je pense qu'il faut choisir. Je pense que c'est un peu comme dans un couple. Il faut aimer et respecter les gens avec lesquels tu travailles. Donc, si tu n'es pas éperdument amoureux des artistes avec lesquels tu bosses, c'est compliqué, à mon avis, de les accompagner. Et puis derrière, c'est ce que je dis moi aux artistes avec lesquels je travaille. La question que je leur pose quand ils viennent voir, ils disent, j'ai une opportunité, machin. Je dis, t'en as vraiment envie?
Il nous a dit la même chose que toi, Laurent Grégoire.
Ah oui?
Sur Adéquate, parce que je parlais des rôles. Et alors, c'est très intéressant ce qu'il disait. Il disait, parce que souvent, parfois, tu as le choix numéro un. Il y en a un qui n'a pas le rôle où il hésite et lui, il doit orchestrer ses décisions. Il disait, mais finalement, c'est toujours l'envie et la motivation qui fait qu'à un moment, l'acteur, il veut y aller, même s'il est ultra connu. Est-ce qu'il veut vraiment ce rôle?
Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Si tu m'autorises à terminer là-dessus, parce que c'est un mot que j'ai pas dit, mais extrêmement important pour moi, c'est le plaisir.
Oui.
C'est le plaisir. Je veux pas paraître pathos, mais on a vécu une époque extrêmement difficile. Oui. C'est probablement pas terminé, mais le Covid a touché tout le monde. Il a impacté tout le monde.
C'est un séisme, ce Covid.
Le spectacle vivant, l'industrie s'est retrouvée complètement à l'arrêt. On n'était pas les seuls, mais on s'est retrouvé à l'arrêt. J'en profite pour un dernier coup de chapeau à mon camarade Grégoire Führer. Grégoire qui, comme pas beaucoup, a décidé de tenir, de garder tout le monde et de payer tout le monde en disant on lâche personne et on va au bout. On a restructuré, mais il a fait en sorte que tout le monde soit payé et que personne soit lâché dans la nature. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, loin s'en faut. On se disait souvent... c'est des périodes difficiles, mais il faut prendre du plaisir. Et quand on se parle régulièrement avec Grégoire, on a des points évidemment réguliers, c'est nécessaire dans un binôme, on s'est dit, est-ce qu'on prend encore du plaisir? Et à un moment, on se disait, non, pas vraiment quoi. Ok, donc qu'est-ce qu'on change pour à nouveau reprendre du plaisir. Et ça, c'est important de garder en tête. Tu peux pas te lever le matin. Moi, je l'ai fait trop souvent. Se lever le matin avec la boule au ventre à l'idée de la journée qui nous attend. Et moi, je fais ça maintenant. J'ai essayé de changer ma façon d'être et ma façon de faire pour privilégier le plaisir. C'est pas possible d'être tout le temps là-dedans. C'est pas une vérité. C'est pas une vérité absolue.
Aider à être heureux et à profiter des choses, évidemment.
C'est important. Et j'espère que les équipes avec lesquelles je travaille ressentent ça aussi. J'espère être un manager qui privilégie le plaisir plutôt que le chemin de croix. Le chemin de croix à tout craint. On fait un métier. On sauve pas des vies, mais c'est un métier qui est extrêmement, extrêmement prenant. Il faut prendre du plaisir.
Et bah Yann, en tout cas, ça a été un grand plaisir, évidemment, d'avoir cette discussion avec toi. Et puis, tu as bien bouclé la boucle aussi avec le début de la conversation, avec le coup de fil avec Grégoire. Et bah, en tout cas, un grand merci pour avoir fait ce podcast.
Merci de m'avoir reçu, Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.